Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous sommes toujours à parler de la Vierge Marie en nous rendant bien compte que de parler de la Vierge Marie, c'est bien de parler du salut en Jésus-Christ. C'est pleinement cela. Et nous arrivons là au numéro 495 du catéchisme de l'Église catholique, la maternité divine de Marie. J'aime beaucoup ce dont nous allons parler là, si je puis dire. Ça fait un peu affectif. Mais il est vrai que le 1er janvier, nous fêtons dans notre calendrier liturgique aujourd'hui donc la Sainte Marie, Mère de Dieu. Et je trouve que souvent, cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, est un peu accessoire. C'est l'impression que cela donne en écoutant certains chrétiens, alors qu'il me semble bien que c'est quand même la première fête de Marie qui a existé dans la tradition de l'Église. On a célébré Marie, Mère de Dieu. La fête s'est un peu éclipsée, mais elle a été ramenée le 1er janvier, qui a été pendant un certain temps où dominait la circoncision de Jésus. Et on s'est retrouvé, donc le pape Paul VI a redonné force à cette fête de Marie, Mère de Dieu. Il est important de bien nous rendre compte en quoi cette fête est, si je disais qu'elle est première, c'est qu'elle fonde l'ensemble.
Oui, certainement Paul VI a voulu rendre compte un peu d'une partie des évêques présents au Concile Vatican II qui auraient eu souhaité que l'on fasse un traité de la Vierge Marie indépendant du traité sur l'Église. Mais la majorité s'est exprimée et a décidé que l'on traiterait de la Vierge Marie dans le mystère de l'Église avec le fameux chapitre 8. Et il a voulu rehausser un petit peu la dévotion vis-à-vis de la Vierge Marie dans un sens christologique, dans un sens tourné vers le Christ. Or, c'est vrai que cette fête de la circoncision de notre Seigneur, avec le don du nom de l'enfant, puisque l'enfant recevait le nom au huitième jour, donc le nom de Jésus a été exprimé et officiellement donné à Jésus le jour de sa circoncision, c'est bien Jésus qui est au cœur de ce mystère, et rappeler que c'est par Marie qu'il est né, c'était l'occasion donc de célébrer Marie, Mère de Dieu. Et cette expression donc est très ancienne, puisque on la trouve déjà dans un manuscrit du 3e siècle en Égypte, dans lequel on déclare que nous implorons l'aide de la Vierge Marie. C'est le fameux texte « Sub tuum refugium confugimus sancta dei genitrix », c'est-à-dire « Sainte Mère de Dieu, nous nous réfugions à l'ombre de ton secours ». Et on appelle donc Marie « Sainte Mère Sancta Maria, Dei Genitrix, celle qui a engendré Dieu ». Et ce mot « engendrer Dieu », évidemment, ne veut pas dire que Marie aurait engendré la divinité. Il n'y a pas de théogonie, hein, comme le pensaient les païens, entre Zeus, Héra, Jupiter, l'équivalent chez les latins. Il n'y avait pas, évidemment, d'idée, la plus petite idée de théogonie. Il s'agit seulement d'engendrer le Fils de Dieu fait homme. Et Marie, bien sûr, engendre dans le temps le Fils de Dieu fait homme, mais ce Fils de Dieu est vraiment Dieu. Et de par le fait que le sujet de cet enfantement est vraiment Dieu, on peut dire qu'elle est du coup mère de Dieu. Et pour confirmer cette expression que l'on trouve dans la théologie chrétienne, eh bien, il y a l'Écriture. L'Écriture parlait déjà de la mère de Jésus, par exemple dans Saint Jean, au moment des noces de Cana, ou au pied de la croix, en disant que Marie, la mère de Jésus, était là. Mais dans Saint Luc, on ajoutait une précision dans l'expression que Sainte Élisabeth, la cousine de Marie, exprima à l'arrivée de Marie à là où habitait Élisabeth, probablement à Ein Carem, au sud de Jérusalem. Et Élisabeth déclara « Comment la mère de mon Seigneur est-elle venue à moi ?» Et le mot « Seigneur », évidemment, renvoie à beaucoup plus grand que seulement une réalité, une personne, un sujet purement humain, simplement humain, mais Seigneur renvoie à l'identité même de Jésus et renvoie donc à la divinité. Et du coup, il était facile de passer de mère de mon Seigneur, Luc 1, 43, à mère de Dieu. Et c'est ce qu'ont fait les pères de l'Église dans des disputes assez acerbes, puisque un évêque métropolite de Constantinople, qui s'appelait Nestorius, avait un peu une vision un peu simpliste de la répartition des attributs du Christ. Il disait il y en a qui sont divins, par exemple, quand on dit que Jésus guérit, c'est de l'ordre du divin. Quand Jésus marche sur les eaux, c'est de l'ordre du divin. Et puis quand Jésus dort dans la barque, quand Jésus mange, c'est de l'ordre de l'humain. Et entre deux, alors il y a des titres intermédiaires qui font un peu le lien entre les deux. Et il avait dit, ben, pour moi, le titre intermédiaire, c'est le mot Christ, parce qu'il est le Christ, il est loin de Dieu, et qui rassemble en lui l'humain et le divin. Et du coup, un jour de Noël, c'était évidemment pas un jour très futé, je dirais, pour prêcher cette chose-là.
En effet.
Il s'est mis à détruire l'expression théotokos qui circulait dans l'Église primitive. Il a dit, il faut dire désormais Christotokos. Et il a fustigé donc son auditoire à Constantinople qui utilisait dans les chants encore théotokos. Alors évidemment, l'affaire est remontée très haut. Elle est remontée à Cyril d'Alexandrie, qui n'était pas un homme non plus particulièrement conciliant. Et les deux ont porté plainte à Rome. Et le pape de l'époque, qui s'appelait Célestin, a cherché dans les archives, a regardé l'ex Orindi de l'Église de Rome. Et il a vu qu'on disait effectivement « Sancta Dei Genitrix ». Sainte Mère de Dieu, et donc il a dit à Nestorius qu'il se trompait, et à Cyril qu'il avait raison, et même il a dit à Cyril, je te demande de traiter l'affaire toi-même, c'est-à-dire il l'a considéré comme son légat. Et au moment où Nestorius a fait appel à l'empereur de l'époque, l'empereur a dit, mais faisons un concile. Il se souvenait du concile de Nicée en 325, donc faisons un concile, et puis vous expliquerez. Et l'empereur appuyait Nestorius, qui était quand même un évêque de cour, très proche de lui. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu le concile d'Éphèse, où Cyril est arrivé en premier, mais il est arrivé en premier avec beaucoup de corps évêques, c'est-à-dire des évêques auxiliaires. Et il a pris assez vite, avec l'accord de l'évêque d'Éphèse, la direction des affaires, et ils ont décrété que c'était Marie, mère de Dieu. Ils ont convoqué Nestorius, qui n'a pas voulu venir, donc ils l'ont condamné. Et puis après sont arrivés les légats pontificaux, tout était déjà fait, les orientaux, tout était déjà fait. Et du coup, il y a eu un deuxième concile qui s'est fait avec les orientaux et avec Jean d'Antioche, qui était l'évêque d'Antioche, qui n'était pas content qu'on ne l'ait pas attendu. Donc ils ont condamné Cyril, ils ont condamné les premières décisions. Mais les légats pontificaux ont dit non, nous suivons Cyril, puisqu'il est légat pontificaux, il a reçu les légations nécessaires pour faire le travail, donc nous appuyons Cyril. Et finalement, c'est bien la décision de Cyril qui l'a emporté, mais il faut bien le reconnaître, dans une situation ecclésiale un petit peu perturbée en tout cas, et il a fallu attendre en fait 451 pour arriver à, je dirais, à rendre les choses plus paisibles, puisque on a compris que le mot Mère de Dieu, dans le fond, c'était le grand axiome christologique que l'on appelle la communication des idiomes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire le fait qu'on puisse dire ce qui concerne proprement la nature humaine, l'attribuer au sujet divin, et réciproquement, ce que l'on dit de la nature humaine, la nature divine, on puisse l'attribuer toujours au même sujet, la personne de Jésus-Christ. Et cette communication des idiomes, donc, a été parfaitement mise en place au Concile de Chalcédoine en 451, en rappelant qu'il y avait un sujet, une personne, en d'autres termes, et deux natures. Et que, bien sûr, les natures, chacune, avaient leur propre opération, mais c'est le sujet qui opérait. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui opère par sa nature divine et par sa nature humaine. Et donc les choses se sont parfaitement clarifiées, le titre est resté bien célébré dans l'ensemble de la chrétienté, Marie, Mère de Dieu, mais il n'est pas interdit de dire aussi qu'elle est Mère du Christ et Mère de Jésus. Quand on n'est pas dans le conflit, quand on ne suppose pas de mauvaises intentions dans ces titres, c'est parfaitement légitime de dire que, d'ailleurs, l'Écriture dit Mère de Jésus et Mère du Christ, c'est la même réalité. Donc on peut très bien le dire, et dans un accord avec les orientaux qui n'ont pas suivi le Concile de Chalcédoine, le pape Shenouda III et le pape Paul VI ont reconnu la validité de l'expression aussi Christotokos, c'est-à-dire la Mère du Christ. Ça n'est pas du tout infamant de le dire, mais ce qu'a souligné le Concile d'Éphèse en 431, c'est de dire « c'est autorisé de dire Mère de Dieu ». Voilà, et qui confirmait la liturgie, en particulier le « subtum presidium », ce vieil hymne que nous utilisons encore, d'ailleurs, nous-mêmes, dans la liturgie latine.
Et ça nous aide à ne pas mal parler de Jésus en disant qu'elle est Mère de Dieu.
Et voilà, exactement. Ça nous aide à bien spécifier que celui en qui nous croyons, c'est notre Seigneur Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme.
Merci, frère Édouard.
Merci.